Bonjour Cyril Gaucher.
Bonjour.
Maire adjoint de la ville de Talent, enfin plus pour très longtemps, vous avez eu un gros désaccord avec le maire Fabien Ruinet, on va en parler. Vous étiez ces derniers jours en Russie, vous avez assisté à l'élection présidentielle russe qui a vu le week-end dernier la très large réélection de Vladimir Poutine à 87%. Vous y étiez en tant qu'observateur international. Vous êtes revenu en Côte d'Or cette semaine et depuis vous faites face à une polémique, il y a de nombreuses critiques, certains vous accusent de cautionner le régime de Vladimir Poutine, on va en parler. Tout d'abord, Cyril Gaucher, expliquez-nous en quoi consiste cette fonction d'observateur international, ça veut dire quoi, justement?
Il y a d'abord une distinction à faire justement entre observateur international et expert indépendant.
Ouais.
Les observateurs internationaux, ce sont des personnes qui sont mandatées par des pays ou des agences liées à des États ou bien de grosses collectivités, et qui les représente directement.
Et vous étiez observateur, hein?
Justement, non. Justement, non. Et c'est important parce que c'est un amalgame qui a été commis ces derniers jours, et c'est pas vraiment une erreur que vous faites, vous ne faites en fait que reprendre ce qu'on a entendu à tort depuis plusieurs jours ici, localement.
Donc vous étiez expert?
J'étais expert international, ce qui n'a du coup pas de lien. Si l'activité est à peu près la même, en réalité la prérogative n'est pas la même et le mandat n'est pas le même. L'observateur représente son pays. Il y avait une centaine de pays dans le monde qui avait mandaté des personnes pour effectivement les représenter directement.
Et observer
au sein de cette
sur
élection.
Place comment ça se passe, voir s'il y a des anomalies, etc.
Voilà, il y avait par exemple dans ma délégation des diplomates, même un ambassadeur, il y avait des parlementaires de divers pays qui eux représentaient directement l'État, le pays dont ils étaient ressortissants lors de ce scrutin en Russie. Par contre, pour les pays qui n'avaient pas choisi d'être présents, d'être partie prenante dans ce scrutin en Russie, il pouvait y avoir donc des personnes qu'on pouvait inviter, mais qui intervenaient en tant qu'experts indépendants, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de mandat du pays et qu'ils intervenaient en leur nom et pour eux-mêmes avec la simple information qu'ils étaient effectivement originaires de France, d'Allemagne, de Belgique, etc.
Ce qui était le cas pour vous.
Ce qui était le cas pour moi, mais je n'intervenais évidemment pas pour la France, et encore moins, même si ça paraît risible, pour la ville de Talent ou Dijon Métropole.
Oui, bien sûr, ça on a bien compris. On fait la différence entre votre mandat à la ville de Talent et à la métropole.
Vous faites la différence, parce que le maire de Talent, lui, a quelques difficultés avec ça.
On va en parler après.
Il faudra quand même qu'on lui souligne que la ville de Talent n'a pas d'ambassade et de représentation diplomatique à l'étranger.
Ça, c'est un autre sujet, on en parlera. Mais tout d'abord, juste pour votre mission, enfin l'activité que vous avez exercée en Russie, donc vous l'avez précisé, expert indépendant et non observateur international. Personne ne vous a mandaté, du coup vous y êtes allé de vous-même en fait, c'est comme ça que ça s'est passé?
Quand les pays donc choisissent de ne pas avoir de représentants à ce type de scrutin, en fait ce sont en général des associations d'amitié, d'associations de liaison.
Donc c'était le cas, la France n'a pas mandaté d'observateur pour ces élections. Et ça se fait au niveau d'une association. C'est une association qui se dit, bon nous, on prend le parti d'aller observer, d'aller voir ce qui se passe pendant l'élection.
La France, comme la plupart effectivement des pays européens, a choisi d'être totalement absente de ces opérations de vote.
Dû au contexte de la guerre en Ukraine évidemment.
Et donc j'ai été invité par une association d'amitié en fait, par le biais d'une association d'amitié franco-russe et par ce qu'on appelle la Chambre civique de Russie, qui est en fait un organisme indépendant qui assure donc le suivi des opérations de vote, tout simplement.
Comment ça s'est passé? Alors vous êtes arrivé quand déjà? L'élection c'était le week-end dernier.
Vendredi, samedi, dimanche.
Vendredi, samedi, dimanche. Vous êtes arrivé quelques jours avant?
Oui, je crois l'avant-veille, il me semble, mercredi.
Vous avez fait le tour des bureaux. Vous étiez à Moscou uniquement, vous êtes resté uniquement dans la région de Moscou.
Chacun faisait le choix qu'il voulait. On pouvait aller à Saint-Pétersbourg, on pouvait aller à Vladivostok, on pouvait aller à Novosibirsk. Il y avait diverses délégations en fait. Moi, alors, sans vous raconter ma vie, étant un petit peu fatigué, ayant beaucoup de choses à faire ces derniers temps, j'avais dit, allez, ce serait un peu plus reposant pour moi de rester à Moscou, puisque c'est le point d'atterrissage de tout le monde. Je reste à Moscou, ce sera pour moi plus confortable. Et comme c'est une ville que je connais bien, ça me donnera également plus de liberté de mouvement et de décision dans le cadre de mon mandat. Enfin, alors, pas de mon mandat, dans le cadre de ma mission.
C'était pas la première fois que vous alliez en Russie, vous y êtes allé une première fois en 2018, c'est ce que j'ai lu dans la presse, vous confirmez?
Vous êtes bien informé.
Voilà, bon, voilà. 2018, vous êtes allé plusieurs fois, il y avait le lien avec cette association dont vous nous parliez, vous avez appris le russe, etc. À Moscou, vous avez vu combien de bureaux de vote? Combien de bureaux de vote vous êtes allé?
Une vingtaine sur les trois jours. Alors, les délégations, il y avait environ 700 personnes qui étaient à la fois ou observateurs ou experts. Hein, c'est un chiffre global, environ 700 personnes, par petite délégation d'une dizaine de personnes. Donc on se déplaçait donc par groupe d'une dizaine. Hein. On croisait finalement pas les autres délégations parce que chacune avait son circuit qui lui était propre. Et donc, on se déplaçait dans des bureaux de vote.
Donc, pas, évidemment, vous n'avez pas voté parce que vous n'êtes pas citoyen russe, mais observé, vu ce qui se passait. Vous n'avez pas constaté d'anomalie.
Alors, nous arrivions dans un bureau de vote. Nous rencontrions l'ensemble des personnes, président de bureau, etc. C'est le fonctionnement assez semblable à la France, hein, si ce n'est que comme on était à Moscou, il y avait beaucoup de gens, ce qui était même plutôt rassurant. Il y avait minimum 7-8 personnes par bureau de vote. Mais enfin, certaines personnes m'ont dit, attention, dans des petits villages de Sibérie, c'est bien comme en France. Quand on a 2-3 personnes qui tiennent un bureau de vote, c'est le maximum parce qu'on a parfois du mal à trouver des bénévoles et des gens. C'est le même problème des petites communes en France où bien souvent c'est le maire qui tient le bureau avec sa secrétaire. Bon, c'est soit la même chose. Par contre, à Moscou, il y avait beaucoup de monde dans les bureaux, effectivement. On a constaté l'atmosphère. Il n'est pas difficile pour moi qui connais la langue de Tolstoï de pouvoir discuter avec les gens à l'extérieur du bureau, de voir des gens qui arrivent tranquillement avec leurs enfants, le sourire aux lèvres, parce qu'en plus il a fait plutôt beau, le temps était plutôt ensoleillé sur ces 3 jours, à l'exception un peu du dimanche. Les gens étaient détendus, il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas d'hommes armés dans les bureaux de vote, il n'y avait pas de phénomène de pression du tout, les gens exerçaient...
Vous n'avez pas l'impression d'être dans une dictature?
Voilà. Les gens exerçaient librement leur vote dans le bureau, sans que quelqu'un les observe, les suive. C'était tout à fait, l'ambiance était tout à fait normale. J'ai même vu une dame âgée qui a rempli son bulletin et qui n'a pas bien compris et qui est partie, qui a commencé à quitter le bureau sans mettre son bulletin dans l'urne. C'est moi qui ai noté, qui ai immédiatement fait remarquer ça. Et la dame est revenue toute confuse. Et on lui a dit, madame, votre bulletin, personne n'a le droit d'y toucher. C'est dans l'urne qu'il faut le mettre. Alors la dame toute confuse dit, excusez-moi. Bon, voilà. C'est vraiment les scènes typiques auxquelles on assiste dans des bureaux de vote français.
Oui, mais là, vous étiez, c'est dans une vingtaine de bureaux de vote moscovites. Vous n'avez pas vu, c'est pas tout à fait représentatif de l'ensemble de l'élection partout en Russie.
Alors, l'autre,
parce que partout ailleurs en Russie et dans certains quartiers de Moscou, apparemment, il y a eu quand même des manifestations. Il y a eu des manifestations d'opposants quand même.
Alors, premièrement,
ça, vous l'avez,
deux éléments de réponse à vous donner. Le premier que j'ai déjà été amené à donner, c'est que j'ai pris moi des libertés du fait de ma bonne connaissance de la ville et de ma relative maîtrise de la langue, de sortir du circuit, de la liste des bureaux qui étaient prévus. C'était pour organiser notre chauffeur de bus, hein, tout simplement, qui avait son circuit de circulation dans Moscou. Hein. C'est une ville où il y a beaucoup de trafic, bon, c'est compliqué. Et j'ai pris à plusieurs reprises, la liberté de dire stop, attendez, je vois un bureau de vote ici, on y va. Il n'est pas dans la liste, on s'en fout, on y va. La délégation était plutôt amusée de me suivre dans cette démarche un petit peu freestyle. Et donc, on est allé visiter des bureaux non prévus.
Vous n'avez pas eu de problème, de circuit.
Aucun problème. À chaque fois, les gens du bureau étaient un petit peu étonnés parce qu'ils ne savaient pas initialement qui on était. C'est normal. C'est comme en France, vous n'avez pas forcément connaissance des instances internationales qui peuvent exister. Donc, on se présentait en quelques secondes en russe. Et puis après, on observait strictement la même chose, les mêmes comportements, les mêmes réactions, la même atmosphère, les mêmes moyens techniques. C'est pas un problème. Alors, me dire maintenant que l'ambiance serait différente au fin fond de la Sibérie qu'au centre de Moscou, là, si on en est réduit à ça, nous occidentaux, ça reviendrait à dire qu'en France, il n'y a qu'à Paris que les élections seraient loyales.
Ouais.
Enfin, ça n'a évidemment aucun sens, puis quel mépris aussi pour la ruralité, enfin, ça n'a pas de sens.
Ce qu'on vous reproche, Cyril Gaucher, enfin pas moi, mais en tout cas les différents observateurs à Dijon, le maire Fabien Ruinet, François Rebsamen également, ce qu'il vous reproche, c'est de ne pas avoir pris assez de recul justement dans vos déclarations, dire que ça se passe, dans ce que j'ai observé à Moscou, ça se passe exactement comme en France. On sait très bien que... l'opposition est muselée quand même en Russie. Vladimir Poutine est quand même président de la Fédération de Russie depuis 2000. Bon, il y a eu un autre président pendant une certaine période avant, mais on sait que ce sont pas tout à fait les mêmes conditions démocratiques en France. Ça, vous le reconnaissez.
Là-dessus, je vais être très très clair. Notre mission, c'était pendant 3 jours d'observer des opérations de vote dans des bureaux de vote. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je ne vais pas me forcer à mentir pour faire plaisir à la doxa européenne. Attendez, je vais quand même pas me forcer à mentir. La réalité, c'est que sur ces 3 jours...
Ce que vous avez vu, mais vous n'avez pas tout vu. Vous n'avez peut-être pas tout vu.
Sur ces 3 jours, l'intuition globale de l'ensemble des observateurs, y compris ceux qui étaient les pieds dans la mer du Japon à Vladivostok, est la même. Il n'y a pas eu besoin de mettre en place un mécanisme de fraude.
De bourrage d'urne.
C'est ça que je veux vous dire. Un des chiffres qui était important pour le Kremlin, c'est le taux de participation. Il s'est élevé à 73%. Parce que le vote, comme en France, n'est pas obligatoire. Contrairement à la Belgique, par exemple, La Russie n'a pas institué un vote obligatoire avec des pénalités, comme en France. Bon, 73%, c'est un score de participation qui était visiblement satisfaisant. C'est pas non plus un score de République bananière. Bon, 73%, c'est une bonne mobilisation, sans plus, disons. C'est sur ce genre de chiffres-là que les chiffres auraient pu être manipulés.
Je vous laisse finir.
Ça, c'est un chiffre. L'autre chiffre, c'est le résultat du candidat sortant, Vladimir Poutine, candidat à sa réélection. Ce score est très élevé. Certains, il dépasse même le score de Jacques Chirac en 2002. Jacques Chirac avait fait 82.
2% face à Jean-Marie Le Pen.
Jacques Chirac avait fait 82, Vladimir Poutine fait 87. Bon, c'est sûr que ça interroge. Je dois dire que pour beaucoup d'observateurs internationaux et même d'experts russes, il aurait fallu, je le dis en plaisantant, mais pour vous donner la mesure des choses, que le score fût un peu plus bas. Parce que beaucoup se disent, zut alors, on a fait plus que Chirac en France, ça peut interroger. La réalité,
c'est la suivante.
Il faut bien comprendre que les Russes n'ont pas voté le revolver sur la tempe. Ça, je vous le dis. Si vous cherchez à critiquer, juger, à établir des hiérarchies entre les démocraties dans le monde, il va falloir vraiment se lever très tôt. Parce que si vous voulez, si les Français, les Occidentaux veulent faire une liste des pays qui ne sont pas conformes aux critères des démocraties occidentales, qu'on fasse cette liste, il y aura peut-être la moitié de la planète au moins dans cette liste, qu'on crée un tribunal international, avec Macron, Scholz, Ursula von der Leyen, si on veut, et qu'on se mette à juger des pays qui représentent peut-être les trois quarts de la population planétaire.
Ouais, vous le disiez...
C'est important ça. Je veux dire que le critère de la démocratie occidentale, c'est pas un critère universel. La Russie a son histoire, c'est un peuple qui a fait deux révolutions lui aussi.
Mais qui aujourd'hui, la population russe n'est pas dans le même état d'esprit, entre guillemets, que peuvent être les Français.
L'histoire est différente.
C'est pas la même culture.
Les Russes, c'est un pays gigantesque.
Vladimir Poutine a suscité beaucoup, là je parle avant la guerre en Ukraine, a suscité beaucoup d'espoir auprès des Russes. Que la Russie puisse se relever après la chute de l'URSS.
Alors, c'est plus qu'un espoir, c'est une satisfaction. Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre.
Et c'est pour ça qu'il suscite encore aujourd'hui beaucoup de soutien.
Le temps nous manque un peu. Mais le lundi, par exemple, le lendemain de l'élection, dans le métro de Moscou, j'ai pas vu de scène de liesse, j'ai pas vu d'expression de joie, j'ai pas vu de gens exprimer leur bonheur collectivement main dans la main, mais j'ai vu des moscovites qui tous unanimement me disaient « c'est bien, ça va. Poutine a gagné, moi j'ai 3 enfants, je suis rassuré pour eux. Ça va, on va dans le bon sens, on continue. » C'est ça, si vous voulez, qu'il faut arriver à comprendre. On a peu de temps. Les Russes ont été traumatisés par les années Gorbatchev, où d'un seul coup, tout s'est effondré autour d'eux.
Au moment de là, où on sentait venir la chute de l'URSS.
Encore une fois, ceux qui ont envie, moi, de me donner des leçons, allez voir sur Internet, documentez-vous, c'est pas compliqué. Des cadres moyens qui, dans les années 90, allaient, à la sortie du bureau, se nourrir dans des décharges publiques dans la banlieue de Moscou. Le déclassement de l'ex-URSS et de la Russie, ça a été ce trauma. Vous n'imaginez pas ce peuple fier, première puissance du monde, en rivalité avec les États-Unis, devenir ça dans les années 90. Les années Yeltsin, après les années Gorbatchev, ont été des années encore d'humiliation internationale. Poutine leur a rendu ça, c'est une réalité.
Dès les années 2000,
factuel.
Ouais, voilà.
C'est remonté rapidement. Ça a mis quelques années, mais globalement l'économie...
Il reste quand même encore beaucoup d'inégalités dans le pays.
On considère, alors moins qu'aux États-Unis, mais effectivement plus que dans de démocraties d'Europe de l'Ouest. Vous avez raison.
Ouais.
Ce qui a été un des chiffres, le produit intérieur brut par habitant russe a plus que doublé sous Poutine. Alors moi, comme je l'ai dit, je ne suis pas un idolâtre de Poutine. Je n'étais pas là pour ça. Mais si on m'attaque là-dessus, je dis simplement arrêtez de mépriser les peuples. Parce que cette espèce de dichotomie stupide qui consiste à dire à l'opinion publique française qu'il y a des dictateurs partout dans le monde et que nous, occidentaux, on va délivrer les peuples de ça, c'est bien se tromper. Regardez les printemps arabes, ce qu'on en a fait. On a installé la mort, la peur, la misère des régimes islamiques violents à la place de ce qui était, à nos yeux, des dictateurs qui n'étaient pas des modèles de démocratie à l'occidentale, mais qui permettaient, pardon de le dire, notamment en Irak, notamment en Tunisie, notamment en Syrie, d'avoir des classes moyennes qui vivaient à peu près normalement, certes, pas dans nos standards démocratiques, c'est évident, mais chaque pays a son
histoire, plus sécurisée.
Chaque pays a sa culture. La Russie, c'est 11 fuseaux horaires. Il faut bien aussi comprendre que le plus grand pays du monde, et de loin, ne se gouverne pas, ne se gère pas sur les standards, par exemple, d'un canton suisse. Un canton suisse, La tradition historique, l'image d'Épinal, c'est de réunir les habitants dans une salle des fêtes et de voter jusqu'à choisir la couleur des bancs et des lampadaires. Bon, la Russie, ce sera de toute façon toujours, certes, une démocratie, mais une démocratie autoritaire, pyramidale,
démocratie autoritaire,
verticale, tout à fait. Et le pouvoir fort est assumé par tous. Le peuple russe aujourd'hui ne revendique pas une démocratie à l'occidentale, ne revendique pas une logique de canton suisse. Il faut bien arriver à le comprendre. Sur le fond, véritablement, avant de juger les dirigeants, il faut regarder les peuples. Il y a une phrase qui est bien connue, on a les dirigeants que l'on mérite. Chacun, dans le monde, se construit en fonction de son histoire, en fonction de ses traditions, en fonction de sa religion. Il y a véritablement aujourd'hui quand même un drame de constater que la France et l'Europe sont en train de perdre la main sur, je le dis parce que c'est comme ça, des pays qui représentent 80% de la population mondiale. Les BRICS, dont fait partie la Russie, la Chine, l'Inde, sont une puissance gigantesque qui représente aujourd'hui un produit intérieur brut qui est le double de l'Union européenne. Ces pays-là sont en train de se défaire de l'ensemble des relations qu'ils avaient avec nous. Regardez le Sud global. Ce qu'on appelle le Sud global, c'est globalement l'Afrique, c'est globalement le monde arabo-musulman, c'est une grande partie de l'Amérique du Sud et une petite partie de l'Asie. Le Sud global est en train de rejeter l'ensemble des valeurs du monde occidental. Aujourd'hui, tous ces pays traitent de gré à gré. Ces pays ont un système interbancaire qui fonctionne indépendamment de notre SWIFT, dont nous avons exclu les Russes en imaginant que ce serait la punition ultime, et en réalité nous sommes en train de nous tirer une balle dans le pied. Les gilets jaunes sont sortis dans les rues pour un gasoil à 1,50. Aujourd'hui on est à 1,80 à cause de ce conflit, et on ne veut pas dire la vérité. Aujourd'hui il faut bien comprendre que c'est la France qui se tire une balle dans le pied quand elle se coupe de 80% de la population mondiale. Et c'est plus grave parce qu'on se coupe de relations business, de relations de gré à gré, de relations d'échange, mais on se coupe aussi des peuples. C'est capital, ça. Ouais. Aujourd'hui, regardez l'Afrique noire, regardez ce qui se passe. Regardez bien quand même à quel point aujourd'hui la France est rejetée dans un nombre grandissant de pays d'Afrique. Regardez le Burkina Faso, où la Russie va signer un contrat.
On arrive sur d'autres sujets, Cyril Gaucher, je vais être obligé de vous couper, parce qu'on va arriver à la fin de cet entretien, mais j'entends tout ce que vous me dites, évidemment, sur l'espoir qu'a suscité Vladimir Poutine, notamment auprès des Russes, après la chute de l'URSS, etc. Mais reconnaissez quand même que sur les trois journées que vous avez passées à Moscou, vous n'avez peut-être pas pu tout voir de cette élection.
Mais bien évidemment.
Il n'y a pas eu de bourrage d'urne, il y en a peut-être eu dans certains bureaux de vote que vous n'avez pas vu.
Il y a eu des scores,
comment sont passés le comptage des urnes, etc.
Il y a eu des scores, par exemple, très importants en Tchétchénie, très très élevés, qui peuvent interroger, par exemple. J'étais pas en Tchétchénie, j'étais pas à Grozny. Voilà.
Donc vous prenez la parole sur ce que vous avez vu, mais pas sur l'ensemble, évidemment, de l'opération de cette élection présidentielle en Russie qui a pu peut-être fonctionner avec certains dysfonctionnements.
Pourquoi voudriez-vous qu'un observateur vous parle de ce qu'il n'a pas observé ?
Un expert, vous me disiez, vous concernant. Bon.
Comment voulez-vous qu'un expert vous parle de ce qu'il n'a pas expertisé ?
Pour finir, là, c'est un autre sujet, mais ça concerne évidemment toujours la Russie. Vladimir Poutine, il suscite énormément d'inquiétude et même de défiance en Europe et en France avec la guerre en Ukraine. Vous, comment vous voyez ça? Certains disent que si Vladimir Poutine gagne la guerre en Russie, c'est une menace pour le reste de l'Europe. En quelques mots, qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Je pense que le problème, c'est que nous sommes en train, en fait, d'avoir des postures de provocation. Nous avons rompu tout dialogue. Nous refusons, en fait, de regarder la réalité en face, de regarder l'histoire du territoire ukrainien, et que nous sommes dans une logique d'idéologie qui nous conduit aujourd'hui à faire des morts. Chacune des positions.
Oui, parce que l'Ukraine, c'était encore la Russie. Enfin, c'était l'URSS il y a 35 ans.
Il faut bien comprendre.
Certains Ukrainiens se sentent russes, c'est ça que vous voulez dire, oui.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, pendant plus de 70 ans, passer de l'Ukraine à la Russie, c'était comme passer d'Auvergne-Rhône-Alpes par Bourgogne-Franche-Comté, quelque part entre Belleville-sur-Saône et Mâcon sur l'autoroute A6. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Qu'aujourd'hui, effectivement, du fait de la dislocation de l'URSS en 91, des États se sont créés. Il se trouve aussi qu'au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, un certain nombre de pays de l'ex-bloc de l'Est ont été reprofilés à cette occasion. Par exemple, la Tchécoslovaquie est devenue la République tchèque d'un côté, la Slovaquie de l'autre. Le mouchoir de poche de l'ex-Yougoslavie s'est transformé en 6 États, 6 confettis, si je puis dire, pardon pour eux, Serbie, Monténégro, Macédoine, Kosovo, etc. Bon, des tout petits pays, parce qu'on a considéré ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On a considéré qu'au-delà des États créés un peu de toutes pièces à la fin de la chute du pacte de Varsovie et du bloc de l'Est, il y avait des nations derrière ça. il se trouve que l'Ukraine a au moins deux nations. Or, c'est un très grand pays. Il ne s'agit pas de transformer un mouchoir de poche en confetti comme la Yougoslavie. L'Ukraine est un très grand pays. Une grande partie occidentale de l'Ukraine se sent un peu européenne. Je dirais pas un peu par provocation, mais un peu germano-polonaise. C'est-à-dire qu'ils se sentent vraiment voilà, très attirés par
ouest,
ce qui est
la région de Kiev.
Voilà. Une partie orientale, elle par contre se sent totalement russe, connectée à la Russie, de langue maternelle, de culture, à tous les niveaux se sent russe. On n'a pas accepté de regarder ça dans le blanc des yeux depuis 35 ans. Il se trouve que depuis maintenant 8 ans, et ça j'étais bien placé pour le dire, je peux vous raconter une histoire, à Noël 2019, j'étais à Moscou.
On va parler le temps, Cyril Gauchet.
Alors, un ami simplement français de Russie revient du Donbass avec des images terrifiantes en 2019. Des attaques et des bombardements du régime ukrainien sur les populations russes de l'est de l'Ukraine. Ça, c'était une réalité. Ces attaques existent depuis longtemps. Ça ne justifie en rien l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ce n'est pas la question.
N'excusez pas ça.
Il ne faut pas qu'on tombe dans cette espèce de manichéisme à la con où tout est blanc ou tout est noir.
Oui, oui.
Par contre, il faut regarder les choses. Il
dire que la France a eu tort de ne pas voir peut-être certaines choses qui ont été faites par le gouvernement ukrainien avant le début de la guerre en Ukraine.
Fin 2014, début 2015, il y a les accords de Minsk. C'est un texte qui est signé sous l'égide de la France et de l'Allemagne, d'Angela Merkel et de François Hollande. Dans ce texte, il y avait la résolution, je crois, d'une grosse partie des problèmes de l'Orient ukrainien. On n'a pas voulu les appliquer, l'Ukraine n'a pas voulu les appliquer, et des années après, Angela Merkel a dit « Oh, on a signé ce traité, mais il n'avait aucune valeur, on a juste fait ça pour rigoler, le temps d'armer l'Ukraine. » Non. Quand on signe un traité international au nom de la France, avec François Hollande, et au nom de l'Allemagne, de deux puissances crédibles et stables, on assume. L'Ukraine n'a pas voulu respecter ça, il a fallu malheureusement en arriver à un conflit sur le territoire. C'est terrible. Mais il faudrait que nos diplomates occidentaux s'emparent de la question. Vous savez, il y a nombre de personnes de bonne foi, de bonne volonté, dont je suis très modestement, mais des gens peut-être aussi dont la parole aurait peut-être plus de portée que la mienne, qui pourraient nous permettre d'avancer. On n'est pas là pour faire des provocations, on est là pour régler cette question. Si on demandait réellement, sous l'égide de l'ONU, l'avis des peuples d'Ukraine, j'ai dit des peuples d'Ukraine, alors on aurait une réponse précise, on saurait quoi faire. Là, nous sommes en train d'essayer d'assurer le SAV de la dislocation de l'URSS en 1991. Et pour des questions d'OTAN, pour des questions de Russie, pour des questions de choix stratégiques, pour des questions militaires, nous n'avons pas voulu regarder les choses en face parce que bien des intérêts, bien des lobbies sont actuellement en train de se déployer sur le sol ukrainien. Vous savez que les États-Unis ont acheté près de 50% des terres cultivables en Ukraine et qu'aujourd'hui, on est en train de faire entrer des marchandises ukrainiennes agricoles dans l'Union européenne, quasiment sans quota et quasiment sans droit de douane. Nos agriculteurs qui, il y a un mois, faisaient des barrages pour déjà indiquer leur souffrance face à la situation, n'en étaient qu'au début de ce qu'ils risquent de connaître. Et quand on dit ça va changer en côte mal taillée comme toujours. On va mettre un petit quota minimaliste. Aujourd'hui, la France, c'est 200 000 têtes de volaille par jour, l'Ukraine, 1 800 000. Prenez la mesure de ce qui se passe et s'il vous plaît, avant de juger et avant d'abattre un homme, regardez à qui profite tout cela. À qui profite tout cela? Pas aux Français qui ont de l'énergie la plus chère de leur histoire, qui ont de l'inflation, qui ont la hausse des taux d'intérêt. Pas aux Ukrainiens non plus, qui sont avant tout les premières victimes de tout ça, de part et d'autre. Pas les Russes non plus, à qui ça coûte très cher et qui ont aussi des morts militaires. Véritablement, ce conflit ne profite qu'aux idéologues et aux lobbies qui utilisent la naïveté, notamment de l'Europe, pour jouer les belligérants, pour jouer la provocation. Moi, je voudrais le dialogue et j'incite et j'invite tout le monde à dialoguer. Certainement pas à sortir des slogans.
Cyril Gauchet, rapidement, après votre retour de Russie, vous êtes expliqué mercredi après-midi avec le maire de Talent, Fabien Ruminet. En quelques mots, Fabien Ruminet a décidé de vous démettre de vos fonctions de maire adjoint. Ça doit être validé normalement ce lundi en conseil municipal. Vous avez de gros griefs envers le maire de Talent. Il disait qu'il était... Il était au courant que vous alliez en Russie, mais qu'il ne savait pas pourquoi vous y alliez.
Il était au courant de tout, bien évidemment. Il n'était pas le seul. J'avais dit que j'allais en Russie et j'avais dit clairement que j'allais pour observer les opérations d'élection présidentielle. Ça,
j'avais,
je le dis.
En tant qu'expert.
En tant qu'expert, bien évidemment, et que j'allais en Russie pour cela et que ça se passerait à peu près de cette façon-là. J'aurais pas accepté une interview sur France Inter dès le lendemain de mon arrivée à Moscou si j'étais allé en cachette, en catimini là-bas. Ça n'a aucun sens. Par contre, il est vrai que c'est une véritable déception, que c'est une vraie trahison. D'une part, que Fabien Ruinet mente. Ça, j'avoue que ça me blesse, ça me touche quand même.
Il a menti sur le fait qu'il ne
qu'il
savait
pas. Il ment là-dessus.
Tout ne savait pas pourquoi vous alliez là-bas, vous alliez en Russie.
Je trouve ça véritablement plus qu'incorrect, c'est une vraie trahison. Et par ailleurs, je fais partie de ceux qui ont pris le risque, il y a maintenant 4 ans, de prendre le parti de Fabien Runet, je le dis, je l'assume, contre Adrien Guenet, il est vrai qu'il est un homme qui a aussi beaucoup de qualités.
Pendant les élections municipales en 2020.
Bien sûr.
Les élections municipales controversées, ouais.
Et je l'avais fait, nous l'avions fait majoritairement, pas unanimement, loin de là, mais majoritairement, parce que nous avions considéré que Fabien Runet était talenté, local, qu'il était un petit peu finalement l'héritier logique de la majorité et que Adrien Guenet était venu un petit peu se greffer de l'extérieur. C'était ça le grief principal. J'avoue que pendant 4 ans, il a fallu parfois...
Je l'ai soutenu.
Il a fallu parfois colmater les brèches. Il a fallu parfois faire bonne figure face à un maire qui n'était pas toujours à la hauteur des enjeux. Aujourd'hui, ma parole se libère. Mais en tout cas, quelle déception. Et quel homme qui véritablement là n'a pas été à la hauteur. Parce que l'objectif de Fabien Runet, vous savez, hier, il m'a laissé le choix entre deux choses. Soit je démissionnais, soit il me virait. À aucun moment, moi j'ai vu des solutions, on m'avait proposé d'autres choses, notamment, et je vous le dis ouvertement, ce que j'ai dit à Fabien Runet dans mon bureau hier. Il y avait une autre possibilité. Moi je disais, je ne suis pas allé à Moscou au nom de la ville de Talent ni de la métropole de Dijon, ce qui est une vérité absolue. Je n'ai jamais représenté les Talentais. J'ai simplement dit que j'avais été moi président de bureau de vote en France et j'établissais un parallèle avec les présidents de bureau de vote en Russie. N'importe quel citoyen peut être président de bureau de vote. C'est pas en tant qu'élu que j'ai dit cela. Et Fabien Runet, de son côté, pouvait dire « Not in my name, Cyril Gaucher est allé à Moscou, je ne cautionne pas, mais ça n'a aucun rapport avec mes attributions, attributions à Talent. »
Donc il reste
Marjan. Donc les choses continuent.
Il a utilisé ça pour vous mettre à l'écart.
C'était un prétexte pour faire tomber une tête qui dépasse. Et visiblement, au dire de certaines personnes depuis 24 heures, la nuit porte conseil, et j'ai eu quelques conseils et quelques informations depuis, il souhaite peut-être récupérer le siège que j'occupe à la métropole, et pas lui. Mais on ne fait pas ça. On ne fait pas ça à une équipe, on ne fait pas ça à une majorité, on ne trahit pas les gens comme ça. Fabien Runet est dans une position toujours un petit peu fragile de légitimité, un petit peu bancale du fait de son élection. Ce n'est pas un secret, c'est normal. Il comptait peut-être sur les élections de 2026 dans deux ans pour essayer d'être candidat légitime. Là aujourd'hui, ce qu'il a fait, à mon avis, ça signe un petit peu la fin de cette aventure. Parce que là, on voit que même au sein de son équipe, il est capable des pires trahisons. Quand on n'a pas d'autorité naturelle, on essaye de jouer l'autoritarisme.
Entendu. Merci Cyril Gaucher. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire? Du coup, vous restez conseiller, on vous retire votre délégation de maire adjoint à la ville de Dijon, mais vous restez conseiller municipal?
Alors, je serai effectivement...
Vous allez peut-être probablement être exclu également du Parti Les Républicains. Vous restez quand même dans la métropole dijonnaise, vous continuez vos activités et vous gardez le lien avec l'association franco-russe?
Sur Talent et Dijon Métropole, je garde mes mandats électifs parce que ça c'est un droit. Il y a trois solutions pour les perdre. Soit mourir, soit démissionner, soit être frappé d'indignité et perdre ses droits civiques. C'est pas le cas. Toute personne qui est élue peut le rester. Même les deux élus talentais de la majorité qui actuellement habitent sur la Côte d'Azur peuvent rester jusqu'à 2026 conseillers municipaux. Moi qui habite à 500 mètres de la mairie, j'ai pas lieu de démissionner ni de quitter mes mandats, pas plus que de la métropole. Ça c'est pas la question. Au sein des Républicains, même si je suis exclu des Républicains, moi je reste fidèle à ma ligne gaulliste. Vous savez, ça fait bien longtemps que je constate les atermoiements, les flottements des Républicains, tantôt attirés par la droite nationale RN, tantôt attirés par le macronisme. Mais je suis resté fidèle vraiment à LR, fidèle à régler une cotisation chaque année parce que je considérais que c'était les dépositaires du gaullisme. LR, UMP, RPR, UDR, c'est la filiation logique. Donc je reste fidèle au gaullisme, même exclu des Républicains, je resterai fidèle à cette ligne gaulliste. C'est d'ailleurs au nom de cette indépendance de la France que moi je suis allé en Russie.
Merci Cyril Gaucher, bonne journée.